بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعة الإسلام نكونتينو سوسوار إن شاء الله pour la troisième séance, il me semble, avec ce hadith, le fameux hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il était encore un enfant. Chers frères en islam, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le chef des muhajirin, c'était le chef des ansar, c'était le amir al-mu'minin à Mecca, le amir al-mu'minin à Medina, c'était le amir lors de la bataille de Badr, de Wahud, de Khandaq, le Hudaybiyya, lors de la reprise de Taïf, lors de la conquête de Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'invité d'Allah azza wa jal lors du voyage nocturne. Le prophète alayhi salatu wassalam était le imam al-anbiya, le imam de tous les prophètes lors du Isra, lors de la première partie du voyage nocturne, lorsqu'ils ont prié en congrégation dans la Masjid Aqsa avec les autres prophètes alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui qui envoyait des lettres, des messages à César, à l'empereur de Perse, à l'empereur de Oman, des pays avoisinant la péninsule arabe. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était également cet homme qui voit un enfant, son neveu, et qui va lui adresser quelques paroles, quelques phrases qui vont construire spirituellement cet enfant. Quelques phrases qui vont donner à cet enfant les repères nécessaires pour qu'il construise dès maintenant sa relation avec Allah Azza wa Jal. À travers ce message très simple, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son neveu Ibn Abbas radiallahu anhuma, il n'y a aucune parole mystérieuse, il n'y a pas des formules qui nécessitent un dictionnaire ou alors... Il n'y a pas un lexique extrêmement complexe, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de métaphore qui nécessite des commentaires avec divergence d'opinion entre les savants. Là, wallah, c'est des paroles d'une grande simplicité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donne des conseils à cet enfant qui est en train de grandir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, montre également l'exemple à tous les parents, à chaque papa, comment est-ce qu'un père doit donner du temps à son fils, à ses enfants, à ses enfants d'une manière générale, et comment, lors de ce temps qu'on va consacrer à nos enfants, il est important qu'on montre à nos enfants que aham shay, la priorité pour moi, ô mon fils, c'est que tu sois un bon abid, un bon serviteur d'Allah Azza wa Jal, que tu pries bien, que tu pries correctement, mais que ton cœur soit également tourné vers ton Seigneur. Et de cette façon, l'enfant, vous savez, à travers les priorités qu'on donne dans nos discours, dans notre façon d'agir, l'enfant, il décrypte tout de suite. Qu'on mette des phrases ou qu'on ne mette pas des phrases, l'enfant, il sait de quoi, qu'est-ce qui est important aux yeux de papa et de maman. Lorsqu'un enfant voit un papa qui, à l'heure de la salat al-isha, il va regarder un match, il va regarder un film ou une émission, quelle que soit l'occupation dunyawi, et qu'il va préférer regarder ce match plutôt que de faire la salah en congrégation, même si on n'a pas dit, même si je n'ai pas dit à mon fils que, tu sais, le match là, il est plus important, et la salah, je le ferai après. Même si tu n'as pas dit, l'enfant, il analyse tout, il comprend tout. À travers ta réaction, on appelle ça « at-tarbiya bil-qudwa ». À travers l'éducation par le modèle, l'enfant va décrypter, va comprendre exactement ce que papa attend de moi, parce que lui-même il le fait. Et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas prioritaire, parce que papa lui-même ne le fait pas. L'enfant qui voit son père dormir tous les matins à l'heure de Salat al-Fajr, même s'il est avec les meilleurs professeurs dans les écoles, dans les madaris, qui lui font les meilleurs discours, il a les meilleurs livres, il a, mashallah, peut-être même les meilleures notes aux examens, s'il voit son père dormir à l'heure de la Fajr, cet enfant ne réalisera jamais l'importance de la salat de Fajr. D'où le rôle essentiel du papa dans l'éducation de son enfant. À nous de nous poser des questions, moi je le fais en premier.
Pour ceux qui, alhamdulillah, ont des enfants, ceux qui n'ont pas, Allah Rabbul Izzah leur accorde rapidement dhurriyatan tayyiba, qui seront qurrata a'yunihim, qui seront la fraîcheur de leurs yeux. Et je dois me poser la question, est-ce qu'il m'est arrivé une fois, au moins une fois, de prendre mon fils en aparté seul, sans qu'il y ait l'environnement familial, sans qu'il y ait la télé allumée? Parce qu'en tarbiya, là si on reste dans un discours pur de tarbiya, d'éducation islamique, les ulama tarbiya disent que lorsqu'on veut véhiculer un discours important à nos enfants, faites en sorte qu'il n'y ait rien qui vont, il y a rien qui va court-circuiter ce discours. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres enfants qui jouent autour. Il ne faut pas que la maman parle en même temps. Il y a un seul qui parle et l'enfant écoute. Il ne faut pas qu'il y ait la télé ou la radio ou autre chose allumée. Il faut qu'il n'y ait rien qui détourne l'attention de l'enfant. Parce que l'attention de l'enfant, il va dans tous les sens. Donc, privilégiez des moments seuls avec l'enfant. Est-ce que dans ma vie de papa, je me suis déjà assis à côté de mon fils seul, sans qu'il y ait d'autres personnes? Et est-ce que je lui ai déjà expliqué c'est quoi adorer Allah? Viens faire cela, allons à la masjid, ça tout le monde le fait. Sinon, il n'y aurait pas autant d'enfants à la masjid. Fais le ramadan, tous les parents le font. Tous les parents disent aux enfants. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des a'mal. Les a'mal, ils vont faire, inshallah. Ah, il y a une ambiance, il y a la madrasa. Dès qu'ils vont comprendre que ça fait partie de ma vie. Maintenant, il le fait bien, il ne le fait pas bien. Ça, c'est en fonction de l'image qu'on va projeter, de l'important de ce a'mal. Je parle de spiritualité. Je parle de relation avec Allah, de la conception du Seigneur. Comment est-ce que cet enfant, dans son cœur, il comprend qui est Allah? Hada aham shay. Ça, c'est le plus important. Parce que le cœur doit être orienté vers Rabb, vers son Seigneur. Le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, doit entrer dans le cœur de l'enfant. Les a'mal, sans le moindre doute, c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher d'Allah. Comme on a dit Qudsi, dans lequel le Prophète dit que le Prophète rapporte qu'Allah Azza wa Jal dit qu'il n'y a aucun moyen pour un serviteur de se rapprocher d'Allah Rabbul Izzah que de le faire par les actions que j'ai rendues obligatoires sur lui, c'est-à-dire les a'mal, les cinq salats et ainsi de suite. Donc ces actions-là vont permettre aux croyants de se rapprocher d'Allah. Mais si l'enfant n'arrive pas à comprendre qui est Allah, bien sûr, vous savez que on dit qu'on n'a pas le droit de réfléchir comment est Allah. Je ne parle pas de comment. Qui est notre Rabb? Quels sont mes devoirs intérieurement dans mon cœur? Quelle doit être ma soumission vers Allah? Comment est-ce que je dois vivre la présence d'Allah dans mon cœur à tout instant, dans ma vie en permanence, c'est-à-dire la vie d'un mu'min, la vie d'un croyant? Comment est-ce que j'arrive à comprendre qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de moi, il m'écoute, il m'entend, il me voit? Comment est-ce que l'enfant va intégrer ces notions-là? Et wallahi l'azim, l'enfant qui intègre ces notions, c'est un enfant qui, mashallah, va grandir dans le droit chemin et il n'aura pas besoin de surveillance rapprochée. Même dans sa phase d'adolescence, il n'y aura pas besoin de mettre un garde du corps pour voir est-ce qu'il prie, est-ce qu'il ne sort pas avec des filles quand il est dans tel endroit, quand il va faire des études ailleurs, est-ce qu'il va manger halal ou haram. Il n'y aura pas besoin, ya akhi. Tu as mis dans le cœur de cet enfant, tu as fait naître l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la confiance en Allah. Et cet enfant va grandir avec ça. Aham shay. Donc, est-ce que je me suis déjà, mashallah, est-ce que je me suis déjà mis dans un coin de la masjid, de la maison ou dans la voiture même avec mon fils et je lui ai expliqué ses principes? Ça, c'est un devoir, une obligation sur chaque papa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. Vous êtes tous des bergers et chaque berger sera questionné à propos de son troupeau. Ad-dinun nasiha. La religion, c'est l'enseignement, c'est donner les conseils, c'est montrer ce qu'il y a de mieux. La religion, ce n'est pas de suivre instinctivement ce qu'on a envie de faire. Le dîn, ce n'est pas non plus suivre un mouvement de foule. À Ramadan, tout le monde vient, je viens. Après le Eid, tout le monde s'en va, je m'en vais. Pareil. Rien ma poule, c'est pas logique ça. Ou alors, aujourd'hui, c'est bon, là j'ai envie de venir à la mosquée, je vais rester depuis Asr jusqu'à Isha. Et demain, on ne me trouve plus. 2-3 jours. Et puis, il revient. Et puis, il redisparaît. C'est pas ça le dîn. Le dîn, c'est suivre les ordres d'Allah, suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque action de ma vie, je recherche la piste prophétique, je recherche l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Je vais donner un exemple très simple, un exemple que tout le monde a, une expérience que tout le monde a vécue lors de Salat al-Isha. Qui est-ce qui, intérieurement, n'était pas très en colère lors de la première rak'at? Je ne sais pas c'est qui, le frère, qui a laissé son portable. On a eu toute le adhan de Mecca, tout depuis le début jusqu'à, mashallah, la fin. Juste, c'était pas Salat al-Fajr, heureusement. On a eu également Salat al-Khayr ou Minan. Non, on aurait eu tout. Allah Musta'an, la personne qui a ce portable, awalan, il ne pense pas à mettre sur silence avant de commencer leur salat. Et deuxièmement, quand c'est une parole en arabe, ça perturbe énormément celui qui lit. À plusieurs reprises, je ne savais plus où est-ce que je lisais. Et à plusieurs reprises, j'aurais pu me tromper de la lecture. Et vraiment, c'est très en colère. Intérieurement, c'était très agaçant. Maintenant, comment on doit réagir? Il y a quelque chose qui s'appelle la colère. Ce que tu as envie de faire. Ce que tu trouves incohérent et que tu as envie de rétablir la justice. Mais est-ce que c'est toi qui décides ce qui est bon de ce qui n'est pas bon? Est-ce que c'est toi qui décides comment agir avec ton frère en islam? Ou alors tu dois agir avec lui comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les sahaba lorsqu'ils faisaient des erreurs. Y a-t-il pire? Vous savez de quoi je parle? Combien de personnes ont compris? Quel exemple on va donner là? Al-Arabi. Voici quoi le hadith? Masha'Allah. Y a-t-il pire que ce bédouin, Al-Arabi, qui vient de la masjid et qui a envie d'uriner? Et il va près d'un poteau. Regardez comme les poteaux qu'on a, c'est des troncs de palmiers. Masjid Nabawi. Masjid Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam. En présence de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et la mosquée, c'était pas comme aujourd'hui. Que ça a perdu de vue. Non, c'était, je sais pas si c'était comme ça, mais c'était petit. Sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Grands sahaba, ils sont présents. Il tire son pantalon, il commence à faire pipi. Dans la masjid. Quel pays ça y sort, ça? C'est à quelle race encore, ça? Ajib. Les sahaba, ils n'en peuvent plus. Ils voulaient le prendre, le jeter de la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a tout de suite compris que c'est un jahil. Un ignorant. Il ne connaît pas. Les Arabis, les Bédouins, à l'époque du Prophète, c'était les personnes les plus compliquées. Quand il y avait un Arabi, un Bédouin, une fois qu'il était devant le Prophète, il a pris comme ça, vous me permettez, cher? Il a attrapé par son linge, il a tiré comme ça, il a dit Ya Rasulallah! Quelqu'un fait ça avec Koufé? Riyad. Il percute, un coup de le plexus solaire, un coup de boule, un coup de joint de l'estomac, et clé de bras. Je dis que, au nom de quoi? Tu me touches, tu me. Arabi, il vient, il tient le Prophète sallallahu alayhi wa sallam par son manteau. Est tellement tiré que le hadith il est décrit qu'il y a une trace rouge sur le cou de le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait dire au Prophète quelque chose. Il y avait peut-être des reproches à faire. Le Prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé, ne l'a pas frappé, ne l'a pas fait exclure de la masjid, de l'endroit où il était. Il n'a pas dit aux sahaba non plus de chasser cet homme de mon assemblée. Là, wallah, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a écouté. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a su. Il savait qui était en face de lui. Donc, on revient à notre première histoire, pour l'anecdote, ce bédouin, il fait pipi dans la masjid, les sahaba, ils sont désemparés, mais ils attendent qu'est-ce que le prophète va donner comme tawjihad. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète, alayhi salatu wassalam, va voir cette personne, va lui parler avec beaucoup de hikmah, beaucoup de sagesse, parce que, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Quand on invite vers Allah, c'est avec la sagesse awalan. Tout ça, c'est tarbiyah. Tout ça, c'est tarbiyah. Tout à l'heure avec Ibn Abbas, c'était tarbiyah des enfants. Et là, c'est tarbiyah des adultes. C'est la da'wa. Parce qu'avec un enfant, on ne parle pas vraiment de da'wa. On parle d'éducation, de tarbiyah. Quand il est baligh, quand il est un adulte, et que ce soit un proche ou quelqu'un d'éloigné, là, on parle de da'wa. Tout à l'heure, il y a usul tarbiyah, et là, il y a usul da'wa. Donc, le prophète sallam lui a parlé comme Allah lui a demandé de parler avec hikmah, avec sagesse. Il dit que ce genre de massage, ce genre d'endroit, c'est pour l'adoration d'Allah, c'est pour le dhikr, c'est pour la lecture du Coran. Ce lieu n'a pas été construit pour ce que tu as fait. Il a expliqué avec, subhanallah, définition de la masjid et définition de ce que tu as fait, et comment ça n'entre pas dans le cadre de la masjid, c'est irrespectueux. L'arabe était tellement content, il a demandé doua qu'Allah ait pitié de toi et qu'Allah ait pitié de moi, mais de personne d'autre. Parce qu'il a vu qu'ils étaient en colère. Il n'y a que le prophète qui était gentil avec lui. Le prophète dit qu'Allah ait pitié de nous tous. Les ulama disent, subhanallah, il y a des explications, des commentaires, des pavés qui ont été écrits sur ce hadith. Montre que le mu'min, même s'il est dans le droit chemin, s'il est dans son droit, s'il sait que la personne en face de lui fait quelque chose d'ignoble et qu'il est en droit de réprimander, il ne doit pas le faire en fonction de son état d'humeur. Il ne doit pas le faire parce que, ça c'est moi qui rajoute, hein, parce qu'il a eu une mauvaise journée. Donc il va se défouler sur le premier qui a un peu la tête. Parfois c'est comme ça, hein. Allah me pardonne, ça nous arrive à tous, hein. Vous avez une journée terrible, il y a quelqu'un qui s'est garé devant votre maison, là il agoute le causement pour la journée. Depuis le bouga fatigant, depuis 7h le matin jusqu'à le soir, il encaisse tout. Qu'Allah nous pardonne. Ça c'est pas bien ça. La da'wa, la nasiha ne se fait pas non plus en fonction de la lecture des événements que je fais moi, PSO, là, wallah, mais en fonction de la, des situations identiques vécues par notre prophète, en fonction, sallallahu alayhi wa sallam, en fonction des ordres d'Allah, de la façon de, d'interpeller les gens. Et c'est là la hikmah, et c'est là toute la beauté de notre religion. C'est là la façon, c'est ce qu'on appelle le akhlaq et le mu'amala, la façon d'entretenir les liens entre les ikhwan fillah, entre les frères en islam. Je vais clasher avec la personne. Imaginez, c'est tonton, cher, jamais il ne le ferait, hein. Cher, c'est la zamba, comment on appelle ça? Lui, c'est la zumba carrément, lui, la musique qui sonne. Hein? Ah, c'est là. Imaginez, c'est cher. Je dis que oui, mais t'as pas honte, ça c'est quelque chose à faire. Tu empêches l'imam de lire. Tu... Il sait que j'ai raison et il sait qu'il a tort, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est pas quelqu'un, la personne à qui je dis ça, va être vexé. D'autant plus si on dit cette parole devant une assemblée, il va être humilié. Il ne faut jamais, jamais, jamais humilier un frère en islam. C'est quand le hadith dit que la Kaaba a plus de valeur, le cœur d'un mu'min, d'un croyant, a plus de valeur pour Allah que la Kaaba en lui-même. Si je me trompe, c'est une citation d'Umar ibn al-Khattab, à vérifier. Jamais humilier une personne, même dans des situations extrêmes, lorsque des personnes avaient accusé Aïcha radiallahu anha, hadith al-Ifq, l'avait accusé des accusations d'hypocrites, dignes de munafiqin, des gens qui avaient préparé tout ça. Ils avaient préparé ces fausses rumeurs pour porter atteinte à Aïcha radiallahu anha et pour porter atteinte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour porter atteinte à l'islam. Munafiqin, comme il y en a de nos jours à notre époque, il y en aura toujours, Allah musta'an. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a entendu ce que les gens ont osé dire sur sa femme préférée, il est monté sur le mimbar, il a dit ma balu aqwam yaquluna kadha wa kadha wa kadha. Ma balu aqwam, ça veut dire au nom de quoi certaines personnes se permettent de dire, au nom de quoi certains parmi vous osent prononcer telle parole. Mais jamais le prophète alayhi salat wa salam ne pointait du doigt une personne, même si le fautif était parmi eux. Il ne faut jamais faire ihana, il ne faut jamais rabaisser, humilier tous une personne. Tout ça c'est tarbiya, tout ça c'est akhlaq, mu'amala. Donc le prophète alayhi salat wa sallam revient, autant c'était l'amir de toutes les étapes qu'on a citées de la sirat, de Badr, de Uhud, de Muhajirin, Ansar, ainsi de suite. Le prophète alayhi salat wa sallam, c'est lui qui a signé le sulh de Hudaybiyah, qui a donné son accord, hein, pour ses engagements, qui c'était l'engagement de l'ensemble de la Ummah. Le prophète alayhi salat wa salam juge nécessaire, lorsqu'il voit un enfant de cet âge, de lui rappeler comment doit être ta relation avec Allah azza wa jal. Et ça, c'est une grande leçon pour tous les murabbis, pour tous les éducateurs, tirer du temps pour ses enfants. Ça, c'est extrêmement important. Beaucoup plus important que de leur donner des bonbons, des chocolats, de leur acheter des jouets, tout ça, c'est bien. Parfois, on a l'impression qu'être un bon papa, c'est être un papa, comment on appelle ça, un papa qui gâte ses enfants. C'est pas ça, être un bon papa. Et des fois, on a force de donner, l'enfant, à un moment donné, il prend même plus considération de ce que tu lui donnes. Pour lui, c'est normal, papa, il donne. Donc, quand tu lui donnes quelque chose, que ça coûte 15 euros, 20 euros, il prend plus considération. Donc, ça devient des enfants gâtés. Ils ont tout ce qu'ils veulent et ils ne donnent aucune. Ils veulent encore d'autres choses. Quand ils obtiennent, ils ne donnent aucune considération. Ça, ça fait partie des akhta, des erreurs dans la tarbiya, trop donner. Quand on donne, ça doit consacrer quelque chose de bien. Ça doit être ce qu'on appelle une récompense. Et donc la récompense ne doit pas être trop fréquente. Mais avant de parler de cadeaux ou autre chose, le plus important, la priorité des priorités, c'est de parler d'Allah Azza wa Jal à nos enfants lorsqu'ils sont encore petits. Ce n'est pas à 15 ans qu'on va expliquer à notre fils qui est Allah, comment est-ce que tu dois être soumis à Allah Azza wa Jal. C'est quand l'enfant est petit. Les savants disent qu'à 7 ans, lorsque la salat devient importante et qu'on doit demander aux enfants de prier, ben, à cet âge-là, l'enfant doit déjà connaître qui est Allah Azza wa Jal. Parce qu'autrement, tu vas lui expliquer qu'il faut faire la salat. Mais si en amont, tu ne lui as pas expliqué qui est Allah, ça ne va pas prendre son sens. Dans sa tête, il ne comprend pas, ça va être un gestuel. Donc il va le faire soit par jeu, soit par imitation des grands, ou alors pour te faire plaisir. Alors que si tu as déjà expliqué qui est Allah et comment il est tellement bien, tellement important que tu mets ton front sur le sol, tu te prosternes devant Allah, c'est comme si tu te rapproches du trône d'Allah, comment Allah est content de toi. Tu fais naître l'envie de prier dans le cœur de l'enfant. Donc quand il faudra l'initier à la salat, assurément il le fera avec beaucoup de joie, beaucoup de contentement, avec beaucoup de fierté. Sa fierté d'être bon, mais tout ça, ça fait partie de notre travail. C'est, ça ne fait pas partie du travail du fundi. Ça, ce n'est pas le monisab qui fait ça. Ce n'est pas l'enseignant, ça c'est le papa. Parce que la relation père-fils, ce n'est pas la relation éducateur-fils. Ce n'est pas pareil. La qualité d'écoute de l'enseignant, du muallim, du fundi, du monisab, comme vous voulez l'appeler, la qualité d'écoute entre lui et l'enfant, et l'élève, je veux dire, c'est une certaine qualité d'écoute qui est importante, qui n'est pas négligée. Mais avec le papa, il y a une reconnaissance, il y a de l'amour derrière ce dialogue. Donc celui qui pense que je délègue l'éducation religieuse au professeur parce qu'il y a de très bons professeurs dans la madrasa, franchement, ce papa ou cette maman n'a rien compris de tarbiyah islamia, de l'éducation, et ces personnes-là seront questionnées le jour de Qiyama pour leur négligence dans l'éducation des enfants qu'Allah nous protège. Donc on revient à l'histoire de le hadith d'Ibn Abbas, ça nous a permis de montrer également l'humilité du prophète alayhi salat wa salam. Et on avait parlé dans la sirat, c'est un autre programme également. On avait vu quand le prophète alayhi salat wa salam accompagne Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu aux frontières de l'Madina al-Nabawiyya et qu'il dit: Mu'adh, je t'envoie vers le Yémen, je t'envoie au Yémen, invite les gens vers Allah, parce que Mu'adh avait le ilm, il avait beaucoup de connaissances, et au Yémen il connaissait les livres révélés, la religion des Nasara, des Ahli, c'est donc des Ahli Kitab, des gens cultivés. Et là, le prophète, والسلام, on ne parle pas du hadith, hein, on parle juste d'une scène. Mu'adh ibn Jabal est sur une monture. Le prophète والسلام, marche et tient les rênes de la monture. Les savants disent, voyez l'humilité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos jours, certaines personnes, ils pensent, ou alors les gens pensent que ça c'est quelqu'un d'important, il faut absolument être autour de lui. Il faut absolument marcher avec lui. Il faut absolument qu'il soit entouré. Au nom de quoi? Le prophète والسلام, des fois il marchait avec les sahaba, des fois il marchait seul. Il prend le sahaba, il met sur une monture, lui il marche à pied, c'est lui qui amène la monture. Ça c'est tawadou. Le prophète alayhi salatu wassalam prend le temps de parler avec un enfant. C'est pas un chef mikwa, c'est pas quelqu'un d'important, c'est un enfant, un petit. Ça c'est l'humilité, le tawadou de notre prophète sallallahu alayhi wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a donné ses conseils à Ibn Abbas, qui était son neveu. Ya hulam inni u'allimuka kalimat, je t'enseigne quelques paroles, ô cher enfant, ihfadillaha yahfadhuk. On avait lu la traduction, il me semble, ô jeune homme, je vais t'enseigner donc quelques préceptes, garde Dieu, Dieu te gardera. Donc aujourd'hui on devait expliquer, ça veut dire quoi, ihfadillaha yahfadhuk? Ça veut dire que ihfadillaha, c'est protège la religion d'Allah Azza wa Jal. De quelle façon protège la religion d'Allah? Mets-la en pratique dans ta vie. Bi'an tatamathala li awamiri. En commentaire, le charih dit que première chose, mets en application les ordres d'Allah dans ta vie. Wa tajtaniba nawahihi. Et éloigne-toi de tous les interdits. Tout ce qu'Allah a rendu haram, tu t'éloignes. À qui le prophète sallam parle là? Un enfant. On n'oublie pas, hein? C'est pas hajjatul wada'. Le pèlerinage d'adieu, c'est pas un discours aux adultes, il parle à un enfant. Protège le dîne d'Allah, c'est-à-dire obéis ton Seigneur. Ce qu'Allah t'a demandé de faire, ô mon fils, ô mon enfant, fais-le. Ce qu'Allah a dit, il ne faut pas faire, ben ne le fais pas, ne t'approche même pas. Troisième point, ça c'est le sens de Ihfadillah, Ihfadhuk, bi'an tata'allama min dinihi ma taqou. On va dire en français, apprends, connais ta religion afin que tu puisses pratiquer correctement ton dîne et وَتَدْعُوا بِهِ إِلَى اللَّهِ, et tu invites vers Allah. Donc en commentaire, les muhadithins disent que quand on dit protège, garde la religion d'Allah, ça veut dire quoi? Garde la religion d'Allah, ça veut dire que un, tu le mets en pratique et tu t'éloignes donc des interdits, tout ça on peut réunir en un point. Deuxièmement, tu apprends le dîn pour le pratiquer correctement, et troisièmement, on va dire en trois points, c'est bon, troisièmement, tu le prêches, tu l'enseignes aux gens. Parce que celui qui met en pratique, qui apprend, qui met en pratique et qui l'enseigne, ben c'est quelqu'un qui protège le dîn et c'est quelqu'un qui aide le dîn d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, ihfadillah yahfadhuk, protège le dîn d'Allah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal va te protéger également. Et ça rejoint le verset de sourate Muhammad, Ya ayyuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Ô vous qui avez la foi, si vous, en ce sens, hein, si vous aidez le dîn d'Allah, Allah vous aidera. Est-ce qu'Allah a besoin de notre aide? Est-ce qu'Allah a besoin, yihfadillah, protège le dîn d'Allah? Est-ce qu'Allah, Allah Rabbil Izzah, a besoin que chaque personne protège? Non, Allah a besoin de personne. Mais c'est un amana. C'est une responsabilité, c'est un dépôt. C'est une obligation quand on parle d'obéissance et de, d'éloignement du haram, mais, et d'apprendre la religion pour le pratiquer, mais également un amana, un dépôt, quand il s'agit de le prêcher, de l'enseigner aux gens. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam s'est adressé aux croyants lors du pèlerinage d'Adieu, à chaque fois il disait, est-ce que j'ai propagé halballartu? Les gens disaient oui au prophète d'Allah, oui au prophète d'Allah. En commentaire, les mufassirin, les muarrikhin, ils expliquent que le prophète alayhi salat wa salam, à ce moment précis, il a transmis la responsabilité du tablir, de la transmission à chaque sahaba qui était présent dans l'assemblée. Donc c'est un devoir. Donc c'est une responsabilité. Allah n'a pas besoin de nous, mais Allah nous a demandé de le faire. C'est un devoir, mais également un dépôt, une responsabilité. Et donc, quand la personne apprend la religion, il le pratique en faisant les bonnes œuvres et restant éloigné des péchés, et qu'il prêche, et qu'il invite les gens vers le dîne d'Allah, quelle est la récompense? Ihfadillaha yahfaduk. Allah Azza wa Jal te protège. Alors, ça veut dire quoi? Allah te protège. Yahfaduka fi badanika, wa fi malika, wa fi ahlika, wa fi dinika. Ça c'est commentaire. Il dit qu'Allah te protégera de ta religion. Allah te protégera par rapport à ta santé. Allah protégera ta famille. Allah protégera tes biens. C'est-à-dire, Allah te garantira une protection complète. Et ça, nous avons la conviction que celui qui se soumet à Allah, qui pratique les ordres d'Allah, qui aide le dîne d'Allah, in tansurullaha yansurkum. Allah te vient en aide. Allah va te protéger. Allah va guider tes pas. Donc, cette conviction, le prophète alayhi salatu wa salam est en train de l'inculquer dans le cœur de ce petit garçon, de cet enfant. Tu pratiques la religion, Allah azza wa jal te protégera durant toute ta vie. Et de cette façon également, l'enfant comprend que la protection, que la sécurité, que la réussite dans ce monde et dans le-delà ne peut venir que par l'intermédiaire de notre Seigneur. Ce n'est pas en s'accrochant au matériel ou à d'autres asbab qu'on aura la protection, qu'on aura la garantie de réussite. Non, c'est en restant accroché au dîn d'Allah Azza wa Jal. Donc que l'enfant intègre dans cette première phrase, cette première partie, que l'enfant intègre que s'il pratique la religion, il sera toujours sous la protection d'Allah Azza wa Jal, protection d'Allah dans ce monde et dans le-delà. Donc ça, c'est la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Ibn Abbas radiallahu anhuma. On pourrait rajouter que en expliquant à l'enfant que si tu pratiques la religion, Allah te protégera, yahfadouk, et on va avancer un petit peu et puis on va comprendre cette deuxième notion. Deuxième phrase que le prophète alayhi salatu wassalam dit à Ibn Abbas, il reprend la même phrase. Ihfadillah, protège le dîn d'Allah, tajidhu tujahak. On se retrouve la traduction. Garde Dieu, bon, on va dire la traduction est approximative, hein. Protège le dîn d'Allah. La première phrase était quoi? Allah te gardera, te protégera. Et là, la deuxième phrase, tu le trouveras devant toi. Tu trouveras Allah devant toi, ça veut dire quoi? Il y a qu'Allah va guider tes pas à chaque moment, à chaque instant de ta vie. Allah Azza wa Jal va guider tes pas. Et honnêtement, quand un enfant grandit et qu'il va gagner en maturité, en indépendance, et que l'enfant va connaître les phases de la puberté, préadolescence, adolescence, il va devoir faire des choix. Il sera face à différents carrefours de sa vie, où il y aura des personnes qui vont l'appeler vers le droit chemin, des paroles ou des actions qui vont rejoindre l'éducation islamique qu'on a donnée aux enfants, mais, et là il ne faut pas se faire d'illusions, il va trouver dans son chemin également des personnes qui le détourneront de cette éducation qu'on a donnée. C'est pour ça qu'on ne se base pas uniquement sur l'enseignement religieux qu'on donne. On doit faire en sorte qu'il y ait un suivi, mais on doit faire en sorte de faire du'a, de demander du'a à Allah de protéger l'enfant. Et en faisant doua, inshallah, on espère que ce soit exaucé, qu'Allah protège l'enfant. Mais si l'enfant pratique correctement la religion, il a la garantie qu'Allah va guider ses pas. C'est-à-dire que dans les moments cruciaux de sa vie où il aura des choix à faire, on a grand espoir qu'Allah Rabbul Izzah va guider son cœur vers le droit chemin. Il y a des personnes comme ça qui, depuis leur enfance, ils sont protégés par Allah. Des enfants qui ne commettent pas d'erreurs. Je ne parle pas des bêtises, hein, mais pas de péché. Ils ne vont pas dans le mauvais chemin. Ils sont protégés par Allah. Je dis que, mashallah, ce jeune-là, alhamdulillah, il est toujours à la mosquée, il est bien, même ses parents ne sont pas là, alhamdulillah. C'est des gens, c'est des enfants, et puis Allah seul sait c'est quoi les raisons. Mais parmi les raisons qu'on peut comprendre, c'est qu'il a dû recevoir les douas de ses parents. Et que son comportement avec ses parents, c'est tellement bien que, qu'il y ait une formulation ou non des parents, il y a le contentement du cœur. Du coup, l'enfant bénéficie des douas. Même si, instinctivement, je ne vais pas formuler un doua à Allah, donne la réussite à mon enfant parce qu'il a fait, et ainsi de suite. Mais comme le cœur du papa, de la maman, ou du grand-père, ou grand-mère est content de l'enfant, ben automatiquement, il va bénéficier des douas, même s'ils ne sont pas formulés, il va bénéficier de cette baraka qui va provenir de ses parents. Et également, si on a donné donc l'éducation religieuse et spirituelle comme il faut, ben l'enfant, il va pratiquer, et comme il va pratiquer, il sera toujours bien guidé. Allah Azza wa Jal va le guider vers le droit chemin. Et bien sûr, l'excellence, le summum, et là c'est incomparable, c'est inaccessible, c'est lorsque nous voyons l'enfance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement ce que les grands, les lycéens, ils ont appris pendant le premier trimestre. Pendant un trimestre, on n'a vu que la phase avant la prophétie. Voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il était petit, quand il était tout petit, ensuite devenu un enfant, les différentes étapes de l'enfance, jusqu'à ce qu'il devienne un adolescent, qu'il devient plus grand, comment est-ce qu'il a toujours été protégé par Allah azza wa jalla. Il n'a jamais commis un péché. Il a toujours pris les bonnes décisions. Bon, ça c'est l'excellence, ça c'est la protection complète, totale d'Allah azza wa jalla. Si nous voulons, et nous avons toutes les raisons d'être angoissés, comment est-ce que mes enfants vont grandir dans ce contexte et tout, à un moment donné, c'est plus sous contrôle. On ne peut pas mettre une caméra cachée, on ne peut pas mettre un vigile derrière chaque enfant pour le surveiller, non. Et même si on agit de cette façon avec la contrainte, dans l'adolescence, aller à l'encontre du jeune, il va vous casser deux fois plus. Si vous lui dites, vous l'obligez de tourner à droite, même s'il sait qu'à droite, c'est bien pour lui, il va tourner à gauche. Parce qu'il veut vous montrer que jusqu'à quand tu vas me téléguider. À un moment donné, ça ne marche plus. À un moment donné, il doit y avoir une relation de confiance. Cette relation de confiance doit être basée sur, bien sûr, l'amour mutuel entre papa et fils, ou maman, fils et fille, mais également, il doit y avoir au milieu de cet amour une confiance en Allah Azza wa Jal. Il y a un échange à propos de notre Seigneur, de ses qualités, de ses devoirs envers Allah Azza wa Jal. Donc, nous avons de quoi angoissé, mais on sait qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous échappent. Quand l'enfant va au collège, c'est fini. Il passe 4 heures le matin, 2 heures l'après-midi au collège. Après, pire encore, il va aller au lycée. Tu ne peux pas le surveiller en permanence. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, regarde, qu'est-ce qu'il fait mon fils. Même s'il te dit que ton fils fait des bêtises, tu vas faire quoi? Tu l'enlèves du collège? Tu l'enlèves du lycée après? Il va faire des bêtises ailleurs. Alors que si on lui a donné l'éducation depuis tant petit, depuis qu'il est petit, l'éducation islamique, et que là, on a fait rentrer dans son cœur l'amour pour Allah, et l'importance de pratiquer la religion d'Allah, de respecter. Quand Allah te dit, ne fais pas ça, tu ne fais pas. Quand Allah te demande de faire telle chose, tu dois faire. Parce que si tu le fais, Allah te protégera toujours. Allah te fera réussir. Allah te protégera des problèmes. Allah guidera tes pas. Jamais tu vas faire des mauvais choix dans ta vie. De cette façon, Inch'Allah, l'enfant restera sur le droit chemin. Et d'une manière générale, plus on fera avancer l'enfant dans le droit chemin, on rejoindra le verset de lequel Allah Rabbul Izzah dit « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ » En ce sens, les personnes qui recherchent la guidée et qui font des efforts pour avoir plus de guidée, Allah leur accorde plus de guidée. Ça rejoint notre hadith, quand quelqu'un fait un pas vers Allah, vous savez, Allah fait deux pas vers lui. Il y a que plus on essaie de se rapprocher d'Allah avec sincérité, ben plus Allah nous accepte. Donc si on donne ces bonnes bases, on met notre enfant, on donne les bonnes bases pour que notre enfant décolle spirituellement, mashallah. C'est la meilleure des choses qu'on pourra faire pour lui, parce que il va aller, il va grandir dans le droit chemin. Il aura l'amour pour Allah, il va continuer à faire des efforts pour être un meilleur serviteur d'Allah, et donc Allah va l'accepter. Il va faire encore plus d'efforts avec le nouveau potentiel qu'Allah lui accorde. Allah va l'accepter deux fois plus. Il aura un quota de iman encore plus fort. Il va faire plus d'efforts. Allah va l'accepter. Et subhanallah, il a réalisé d'Ali, c'est quelqu'un qui deviendra un salihin, un waliyullah, quelqu'un de proche de Allah Azza wa Jal. Et cette transmission-là, on doit le faire dès l'enfance. Et regardez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle Ibn Abbas avec beaucoup de douceur. Bien inconscient, ces parents qui pensent que l'éducation, c'est avec les claques, c'est avec les coups de bâton, et ainsi de suite. C'est pas du tout l'uslub. C'est pas du tout la façon que le prophète alayhi salatu wa sallam préconisait dans la façon de communiquer, d'éduquer les petits, les enfants. Hada. Et donc, oui, en commentaire, le Mouhadid dit également que l'insan kullama ihtada, donc quand l'homme progresse dans les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla lui donne la possibilité d'avancer encore plus. Alors que, ça c'est une parenthèse, hein, dit alors que, maintenant imaginez qu'on a donné de mauvaises bases à un enfant et qu'il grandit dans le péché. Plus il fait des péchés, plus il aura des points noirs sur le cœur. Et qui est-ce qui lui a donné les mauvais conseils, ou qui est-ce qui ne lui a pas donné, pardon, les bons conseils et qui l'a laissé libre de choisir le mauvais chemin? Ce seront les parents. Et donc, quand l'enfant rentre dans la spirale de péché, ben, il risque, il risque de ne pas s'en sortir. Et de cette façon, je serai le mauvais berger qui n'a pas orienté mon fils vers le droit chemin. Au contraire, je l'ai laissé faire les mauvais choix, fréquenter les mauvaises personnes et aller vers le mauvais chemin. Du coup, quand il prend son envol, qu'il est balir, il commence à faire un péché, deux péchés, trois péchés. Il cumule les péchés, il devient fasir, qu'il ne demande pas pardon parce qu'il ne connaît pas qui est Allah, il ne comprend pas pourquoi il faut se repentir auprès d'Allah. Et son cœur deviendra noir et c'est quelqu'un qui risque de rester dans le mauvais chemin. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam dit, inna al-insana idha aznab sara fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba, s'il demande pardon, le point noir est enlevé, mais s'il demande pas pardon, le point noir reste et un nœud est greffé, ainsi de suite. Donc voyez comment on peut guider l'enfant dès les premiers instants. Soit on lui donne les bons conseils et il va grandir dans le droit chemin, soit on est un papa ou une maman absente et l'enfant va prendre le mauvais chemin et il risque de rester dans cette spirale. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc il dit à Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahak, donc Allah sera toujours avec toi et te guidera vers le droit chemin. Point suivant, encore un point et puis on va s'arrêter. Idha sa'alta fas'alillah, on s'arrêtera là. Après il y a idha sa'alta fas'alillah billah, quand tu demandes, ô mon enfant, demande toujours à Allah azza wa jal. Ay, la ta'tamid ala ahadi min al makhluqat. Ne t'appuie jamais sur les créatures. Que ton cœur ne vacille pas, ne penche jamais pour les gens. N'admire pas ce que les personnes ils ont en termes de biens matériels. Ne pense pas que c'est là les clés de la réussite. Ne fonde pas de l'espoir sur ce que cette personne est là et elle va me donner. Non. Et de cette façon, on enlève hubbuddunya, l'amour, l'attachement des biens de ce monde du cœur de l'enfant. Et de cette façon également, on va le protéger de la jalousie. Parce que si on n'a pas réussi à enlever l'importance du dunya de son cœur, donc ça va s'installer. Et quand il n'aura pas, il va voir que ses amis, ils ont, et lui, il n'a pas. Qu'est-ce qui va se greffer à ça? Al-hasad. Vous savez, les maladies spirituelles, ça se greffe les uns sur les autres. Quand on aime le dunya, ben vous pouvez être sûr que dans quelques temps, vous aurez al-hasad, la jalousie qui va se greffer dessus. Quand vous avez la jalousie, vous aurez su'uvan, les mauvaises pensées qui vont se greffer dessus. Quand vous avez les mauvaises pensées, vous allez avoir un cœur sale. Vous allez détester votre frère en islam par rapport à telle chose. Vous allez mal parler avec lui, mauvais akhlaq. Vous allez faire son ribat ou son bohtan, médisance, calomnie en son absence. Vous allez aller un peu plus loin, vous allez colporter des fausses paroles pour le nuire. Vous allez voir un sorcier pour le casser dans son travail, dans sa vie de copain. Vous voyez comment les péchés, subhanallah, c'est zulub khafiya, ces péchés intérieurs, ces maladies spirituelles se greffent les uns sur les autres et tout va commencer avec l'attachement hubdunya, l'attachement pour les biens de ce monde, parce que quand dans le cœur de l'enfant il y a l'attachement, l'importance est donnée au matériel, c'est-à-dire qu'on n'a pas su mettre l'amour d'Allah dans son cœur. Il a dès le départ, le prophète sallam dit que quand tu demandes, demande à Allah, c'est-à-dire Allah Rabbul Izzah doit être omniprésent dans le cœur, dans la vie de l'enfant. Dans toute la direction qu'il regarde, c'est son Seigneur qu'il doit voir. C'est une relation spirituelle très forte que l'enfant doit créer, doit construire avec Allah Azza wa Jal. Donc, commentaire dit également que même quand une personne, à l'âge adulte, il doit garder ces bonnes habitudes, que quand on a besoin de quelque chose, on demande à Allah. Si ça a été acquis depuis l'enfance, mashallah, on continue. Mais si dans l'enfance, on n'a pas eu, ou alors on a perdu ces notions, on doit réaliser que quand on a besoin de quelque chose, ça c'est une parenthèse, il faut lever les mains et demander à Allah Azza wa Jal. Il faut arrêter de se dire qu'un tel va m'aider. J'ai un problème avec tel machin, je vois, lui il travaille la préfecture, lui il travaille la mairie. Moi je connais quelqu'un qui s'avise des impôts, je connais quelqu'un qui fait ça. Lui il va faire ça pour moi, il va m'aider. On a besoin de piston. Allahu Stan, ça ne veut pas dire que c'est interdit de se faire aider par les gens. Mais notre confiance ne doit pas être sur les gens. Parce que si, pour avancer, vous avez cette conviction que vous avez besoin des hommes, on n'avancera pas. Et cette conviction sera erronée. N'êtes pas en quoi sera mauvais. Alors que si dans la vie, nous avons conviction que je n'ai besoin que d'Allah, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah me suffit. Et je me repose entièrement sur Allah et subhanallah, j'ai cette conviction qu'Allah va me venir en aide. Voyez la quiétude, l'apaisement spirituel qui va naître dans notre cœur. Quelqu'un qui sait que tout ce qui lui arrive, il a besoin de quoi que ce soit, il lève les mains, il fait deux unités de prière, il lève les mains, demande Allah Azza wa Jal. Wallahi, c'est un homme libre. Wallahi, c'est un homme qui n'a peur de personne. C'est un homme qui ne courbera les chines devant personne non plus. Qui ne se rabaissera devant personne. On ne parle pas d'être fier, d'être orgueilleux. Non. D'avoir, mashallah, fait en sorte qu'on ne devient pas esclave des gens. Ah, lui, c'est un homme riche, donc je vais être très gentil avec lui, avec espoir qu'il va me donner. Ne te rabaisse pas devant les gens. Tu as ton honneur, ô mu'min. Tu te rabaisses uniquement devant ton Seigneur. Le seul qui mérite qu'on lui demande, qu'on implore, c'est Allah Azza wa Jal. Le seul qui mérite qu'on se prosterne, on se courbe devant lui, c'est Allah. Ça, c'est des notions qu'on comprend, nous. Mais on doit le faire intégrer à l'enfant avec des formules très simples. Et ça doit commencer par les demandes du quotidien. L'enfant a besoin de quelque chose, fais en sorte que tu dis, qu'est-ce que tu as? Tu as faim? Tu veux manger un sandwich? Lève tes mains, demande, oh Allah, j'ai faim, accorde-moi la nourriture. Il y a Allah, il dit que Allah a exaucé ton doigt. Maintenant, papa va te donner, maman va acheter ce gâteau pour toi. Faites en sorte que, ne lui dites pas des trucs compliqués, pas de grands discours, il ne comprendra pas. Mais qu'au quotidien, l'enfant sache que quand j'ai besoin de quelque chose, avant de demander à papa, à maman, avant d'avoir cette conviction que je veux, je dis à papa, il a de l'argent, il y a le magasin, il achète et je vais l'obtenir. Casser ce circuit. Que le premier, astaghfirullah, ce n'est pas un maillon, mais la première étape, c'est orienter le cœur vers Allah, lever les mains et demander à notre Seigneur. Cet enfant qui a grandi avec cette notion-là, mashallah, c'est un enfant qui va avancer, qu'intérieurement il aura l'amour pour Allah dans son cœur. Je pense qu'on va s'arrêter à l'inchar pour ce soir. Donc en commentaire, en conclusion de cette deuxième phrase, il y en a beaucoup, relier le cœur de l'enfant à Allah Azza wa Jal, que l'enfant sache que le seul qui est toujours là, qui est toujours présent, qui le voit, qui l'entend, qui sait ce qu'il y a dans son cœur, et à qui il peut se confier, même dans des moments où il est extrêmement triste, où il a un chagrin, c'est uniquement son Seigneur. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer avec « Waïda sta'inta, fasta'in billah » si tu as besoin de l'aide, tu as besoin d'aide, demande uniquement à Allah Azza wa Jal et le reste du hadith. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde à tous les qualités du murabbi, de l'éducateur, et qu'Allah Azza wa Jal protège nos enfants, qu'Allah nous donne, comme j'ai dit, les sifat, les qualités, pour pouvoir véhiculer ces messages à nos enfants, et que l'ambiance de la religion, Inch'Allah, prend sa place dans notre foyer, dans nos cœurs et dans le cœur de toute notre famille. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.